Uy, está.
Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis, en direct depuis nos studios de Ferney. Et pour commencer, remue-ménage de 17h à 18h30. Aujourd'hui, notre première nouvelle rencontre avec nos amis de la librairie des femmes L'Inédite à Genève, Annette Zimmermann et Evelyne Merlac. Et nous, elles nous proposeront de nouveaux livres ce soir. Mais tout de suite, peut-être une page musicale, une nouvelle découverte, comme nous aimons à vous en faire entendre dans nos émissions de femmes. C'est la musique originale du film Europa, qui a gagné le prix du jury au Festival de Cannes en 1991. Et c'est le duo, interprété par Nina Hagen et Philip Huttenlocher, qui s'appelle The Aria.
But it is not possible.
Erwachte.
I'm wanting you, needing you, pleading you, but you
Voilà, vous avez entendu le duo entre Nina Hagen et Philippe Huttenlocher. Vous avouerez que vous ne connaissiez pas tout à fait cette voix de Nina Hagen. Eh bien, c'était sa formation première, puisque c'est une formation de cantatrice qu'elle a effectuée. C'est après qu'elle a utilisé cette voix incroyable pour faire ce que peut-être vous connaissez déjà. Une autre chanteuse tout à fait différente qui n'a rien à voir, je vous propose Billie Holiday.
That little cute way of flirting with them eyes, they make me feel so happy. They make me feel so blue. I'm falling, I'm stalling in a great big way for you. My heart is jumping, you started something. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. Oh, baby, them eyes. First time I looked into, and you have a sad little cute way of flirting with. They make me feel so happy. They make me feel so blue. Falling, I'm stalling in a great big way for you. My heart is jumping. You started something. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. Sparkle, bubble, get you in a whole lot of trouble. I'm looking for the boy with the wistful eyes. I fell in love with them eyes. Thank you.
Billie Holiday, pour commencer cet après-midi dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Et notre première rencontre avec Evelyne et Annette de la librairie des femmes L'Inédite à Genève. Alors, Evelyne et Annette, vous avez passé un bon été. On se retrouve avec plaisir, en tout cas moi. Je suis contente que vous soyez de nouveau dans Remue Ménage. Qu'est-ce que vous nous apportez de beau en découverte pour cet automne qui s'annonce bien grisouille pour changer et que nous passerons avec plaisir au fond d'un profond divan, même caché sous nos couvertures, à bouquiner. Alors Annette, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors un très gros livre pour bouquiner très longtemps, mais avec beaucoup de plaisir, ça c'est sûr. Il s'agit donc d'une autobiographie de Corinna Bi. Vous allez me dire, mais il y a un moment qu'elle est décédée, cette femme écrivain bien connue du Valais. Mais en fait, effectivement, elle avait laissé énormément de documents et une jeune femme qui a travaillé sur l'œuvre de Corinna Bi a travaillé aussi sur sa biographie, mais c'est en fait une autobiographie mise en ordre par quelqu'un d'autre qui s'appelle « Le vrai conte de ma vie ».
Et nous découvrirons que la femme qui a travaillé sur cette autobiographie n'est pas celle qu'on pourrait s'attendre. Nous verrons ça tout à l'heure. Et toi, Evelyne, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Je vous apporte alors un témoignage de la Chine du XXe siècle. Un gros bouquin aussi, 500 pages.
L'hiver sera
traduction.
Chaud.
ce sont les signes sauvages de Yongshan. Donc une jeune chinoise aujourd'hui qui vit en Occident, comme on dit, et qui nous rapporte l'histoire de sa grand-mère, de sa mère et d'elle-même dans la Chine, de Mao principalement.
Alors tout au long des présentations que vous ferons de leurs livres, Annette et Evelyne, elles ont choisi aussi de vous lire quelques extraits de ces livres parce que je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est de sentir l'écriture et de vous attirer peut-être en vous donnant un avant-goût de ce que contient les livres. Donc c'est tout ça que nous découvrirons ensemble et tout de suite nous partons dans le monde de Corinna Bi dont tout le monde sait qu'elle a vécu principalement dans le Valais. Le Valais, la terre de Corinna Bi. Annette, elle était très attachée à cet aspect-là de la vie, à sa terre. Et pour elle, cette musique était une chose qu'elle aimait beaucoup, certainement.
Je ne sais pas si on peut dire qu'elle l'aimait beaucoup. Il y a peut-être déjà une petite nuance à apporter. C'est que Corinna Bi était une femme qui a beaucoup souffert dans son corps. Et notamment, elle était atteinte de surdité d'une oreille. Et je pense que la musique pour elle, d'ailleurs dans ses textes et dans tout ce qui émerge de ce livre, tous les paysages, tout ce qui est pictural est beaucoup plus important que le côté musical ou artistique. Et je pense que c'est dû notamment au fait qu'elle n'entendait pas bien. Donc je pense que la musique pour elle n'a pas été quelque chose de fondamental, alors que les paysages, les couleurs de la nature notamment était très importante. Mais à part ça, il est sûr qu'elle puise, d'ailleurs elle le dit très explicitement, tous les thèmes de ces petites histoires dans l'observation du quotidien. Et ce quotidien, bien sûr, c'est le village valaisan, le mayen valaisan, éventuellement la montée d'alpage.
Alors, le livre que tu as choisi est donc une autobiographie, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, Annette, mais avec cette particularité que ce sont des textes écrits par Corinne Aby, mais réunis évidemment par quelqu'un d'autre, puisque Corinne Aby est décédée en 79. Pardon. Alors, quelle est la femme qui s'est attaquée à réunir ces textes et à les mettre en forme à sa façon, puisque je suppose qu'elle a quand même mis sa griffe. Et c'est là qu'il y a une surprise.
Oui, tout à fait. Donc, c'est en fait aussi l'occasion ici de rendre hommage à Christiane McQuarrie, qui est une femme de lettres qui vient des États-Unis et qui a eu l'occasion de rencontrer Corinne Aby à la fin de sa vie, une année avant sa mort, un petit peu par hasard, et qui, je pense, a été très vite fascinée par la littérature de cette femme écrivaine suisse-romande. Elle a sympathisé avec Maurice Chapin, elle a eu l'occasion de le revoir. Elle a appris qu'il y avait donc une quantité de documents non édités, que ce soit d'ailleurs des nouvelles entières ou effectivement tous ces petits billets que Corinne Aby avait depuis très longtemps glissés dans des enveloppes, dans des carnets, dans des petits cahiers à gauche, à droite. Elle notait d'ailleurs sur tous ces petits billets qu'elle gardait dans l'idée de rédiger une fois son autobiographie le mot « vie ». Et alors, le travail de Christiane McQuarrie a été de collationner, en fait, tous ces documents qui sont donc rassemblés à la Bibliothèque nationale. Elle a eu l'occasion de le faire grâce à un congé sabbatique qu'elle a obtenu aux États-Unis et qui lui a permis pendant une année de travailler sur la vie de Corinne Aby.
Est-ce que Christiane McQuarrie a eu l'occasion de rencontrer aussi des personnages qui ont beaucoup compté dans la vie de Corinne Aby, entre autres évidemment son compagnon
Maurice Chapin? Alors effectivement, elle a eu des contacts avec Maurice Chapin, qui d'ailleurs rédige une très belle introduction à ce livre, et aussi ses enfants probablement, mais son travail le plus important a été de lire tout ce que Corinne Aby avait écrit et avait laissé. Mais il est sûr que ça coïncide aussi avec cette pièce de théâtre qui passera d'ailleurs cet hiver à Genève, qui s'appelle Le Livre de C, et qui est un hommage aussi de Maurice Chapin à sa femme. Et je pense que les contacts qu'il a eus avec Christiane McQuarrie lui ont aussi montré certains aspects de la personnalité, de la vie, des soucis de Corinna qu'il n'avait peut-être pas vraiment repérés, même au cours de leur longue vie commune.
Alors, Christiane McQuarrie, comme américaine, c'est ça qui est surprenant. Comment est-ce possible que ce soit une femme américaine qui ait décidé de reprendre la composition de cette autobiographie? Comment a-t-elle mis sa griffe dans l'histoire de Corinne Aby?
Alors, elle a essayé de rester le plus neutre possible. En fait, son travail, ça a été essentiellement, je crois, un travail chronologique. Elle a essayé de rédiger dans l'ordre, de mettre dans l'ordre chronologique les différents textes de Corinne Aby. C'est une entreprise énorme et à la limite impossible. Et dans ce sens-là, c'est vrai que ce livre est une espèce de livre en spirale, parce que très souvent, bon, il y a quand même les récits chronologiques, les moments clés de la vie, l'enfance, l'adolescence, son premier mariage, la guerre, avec tous les problèmes que ça a accompagné pour elle, des difficultés de santé. Tout ça se déroule dans l'ordre chronologique, mais les textes de Corinne Aby sont très souvent des textes qui font référence à différents moments de sa vie. Et alors, elle a dû les organiser dans le texte. Alors, non seulement elle les a mis dans l'ordre, mais très souvent, elle fait des petits passages qui sont d'ailleurs imprimés en italique, pour qu'on voit bien la différence, pour permettre une lecture plus facile. Et je crois qu'elle l'a fait avec beaucoup de succès.
Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans les textes qui jusque-là n'avaient pas été édités? Parce qu'en fait, Corinne Aby a quand même publié une série impressionnante de romans, de courtes nouvelles, etc., de pièces de théâtre pour enfants, pour adultes. Je veux dire, elle avait encore donc une masse si immense que ça d'œuvres qui n'étaient pas éditées.
Écoute, je ne crois pas qu'on peut dire que c'était une œuvre en soi, une autobiographie, une analyse plus ou moins fine de ce qu'on ressent à un certain moment donné de sa vie, ce n'est pas une œuvre dans le même sens que rédiger une nouvelle, qui touche par exemple au fantastique, comme c'est le cas de beaucoup, beaucoup de textes de Corinne Aby. C'est une autre activité littéraire. Et on découvre, je pense, beaucoup plus les soucis, les difficultés de cette femme, ses enthousiasmes, ses problèmes, ce qui faisait ses priorités dans l'existence. Ça, c'est une des choses qu'on découvre beaucoup mieux en lisant évidemment une autobiographie telle que celle-ci, que simplement en essayant de deviner derrière les personnages qui elle est. Mmh. Elle dit aussi qui elle est parfois. Alors on a dans le texte de temps en temps, enfin dans le livre, de temps en temps une nouvelle entière, mais on sait pourquoi elle l'a rédigée à ce moment-là. Alors on nous donne des clés supplémentaires pour comprendre cette femme écrivain, et ça j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Et d'autre part, ce que j'ai trouvé de très, très passionnant tout au long de la lecture, c'est qu'en même temps, on découvre donc un certain nombre de choses sur Corinne Aby qu'on ne peut pas découvrir autrement, qu'on ne peut pas savoir, connaître autrement. Et en même temps, elle reste mystérieuse. Et jusqu'à la fin, Christiane Marquardt a réussi justement à nous montrer toute la complexité de cette femme en gardant aussi un certain voile sur certains aspects de sa vie. Elle est très pudique d'une certaine manière et ça donne beaucoup de charme au livre. On n'a pas l'impression, par exemple, que c'est une autobiographie où on est un peu voyeur. Pas du tout. Et je crois que c'est très important et que c'est une façon de respecter la personnalité de cette femme. C'est bien ce qu'elle voulait.
Est-ce que l'on sait, Annette, si Corinne Aby avait, elle, l'intention d'écrire une autobiographie ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est expliqué assez en détail au début du livre. Et elle avait l'intention de la rédiger. Elle avait mis de côté un certain nombre de ses petits billets, de ses carnets intimes, dans l'idée de rédiger une autobiographie. Elle avait commencé plusieurs fois. Alors, il y a souvent des ébauches de certains passages, de certains moments de sa vie qui sont repris tels quels. Et qui sont justement organisés par Christiane Marquardt, qui a dû faire un travail de compilation, en fait.
Toi qui as l'habitude de lire beaucoup de livres, Annette, et peut-être aussi Evelyne, tu pourrais donner ton sentiment. Comment comprendre que des gens ont envie d'écrire publiquement leur autobiographie ? C'est toujours quelque chose qui m'a toujours beaucoup étonnée, cette nécessité de raconter sa vie à un moment donné, sous une forme ou sous une autre, aux autres. Et surtout pour quelqu'un qui est déjà écrivain, dans le sens que Corinne Aby a déjà pu dire qui elle était au travers de bien d'autres œuvres. Pourquoi à un moment donné avoir envie de parler de soi vraiment très concrètement ? Peut-être l'avez-vous compris à force de lire plein d'autobiographies que vous avez sûrement abordées d'abord parce que vous en avez parlé de nombreuses jusque dans notre émission.
Oui, bon, il y a effectivement, on a souvent parlé ici de biographie, donc de travail récit qui d'autres. Est fait par quelqu'un d'autre. Bon, parfois ces biographies ont été faites du vivant de la personne, parfois non. La dernière dont on a parlé assez longuement ici, c'était Simone de Beauvoir. Elle a participé plus ou moins aux interviews. À la rédaction de cette biographie. Il y a pas mal de biographies qui ont été faites après la mort de l'écrivain, ça c'est sûr. Ici, c'est donc tout à fait différent, parce qu'en fait, c'est une autobiographie qui n'avait pas été terminée par l'écrivaine, qui avait l'intention de le faire, ça c'est très très clair. Elle en avait parlé à plusieurs personnes, elle avait donc ses documents à elle. Moi, je pense, comme je disais au début de l'émission, que c'est un travail tout à fait différent. Et que les interrogations qu'on a en tant qu'écrivain, en essayant de réfléchir sur pourquoi on écrit, quelle est la motivation à écrire une nouvelle, un poème, un texte, un roman, je crois que c'est tout à fait une autre dimension que de laisser libre cours à son imaginaire et à pondre quelque chose. Je crois que c'est tout à fait différent. C'est une autre démarche. Et je crois que plus on écrit, plus on a envie de se poser la question pourquoi est-ce qu'on le fait ?
Publiquement.
Oui. Je crois que ça... Bon, c'est aussi un peu une mode. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément, énormément d'écrivains à qui on demande, mais pourquoi écrivez-vous ? À la fin, on se dit, bon, moi, je vais réfléchir et puis je vais voir ce que je peux dire.
Mais on ne peut pas suspecter Corinne Aby d'avoir cédé à la mode.
Non, du tout. Non, c'est vraiment un besoin d'introspection qu'elle avait. Je crois que c'était ça.
Evelyne, qu'en penses-tu ?
Je ne sais pas, parce que il y a quand même un aspect toujours un peu exhibitionniste dans l'autobiographie, il me semble. Et peut-être que les écrivains, les écrivaines ont ce côté-là de leur personnalité peut-être un peu plus développé que d'autres, le côté narcissique, le côté exhibitionniste. Parce que dans une autobiographie d'un écrivain, il n'y aura pas seulement la raison pour laquelle il écrit, mais il y aura, tu vois, dans celle de Corinne Aby, il y a tous ses soucis quotidiens, il y a toute sa vie, donc il y a beaucoup d'autres choses aussi. Ce que j'ai pu constater, c'est que très souvent les gens qui écrivent prennent très très jeune l'habitude d'écrire des journaux intimes. Et je les ai souvent admirés parce que c'est quelque chose que j'aurais souvent voulu faire et que je n'arrive pas à faire. Donc il faut une discipline assez fantastique pour après, parce qu'ils le font en général régulièrement. Ils n'écrivent pas une fois tous les deux mois, mais vraiment très régulièrement, quelquefois tous les jours. Donc il faut ça pour avoir le matériel aussi, pour que ce soit pas... je veux bien qu'on ait une mémoire extraordinaire, mais c'est quand même difficile si on se met à, je sais pas, 70 ans à raconter sa vie, si on n'a pas d'éléments quelque part. On a sa mémoire de ce qu'on faisait à 15 ans ou à 20 ans ou 30 ans, mais quand même, ça doit être assez difficile. Donc il faut avoir le matériel. Et ils ont en général le matériel, les écrivains, parce qu'ils... Je pense qu'ils écrivent sur leur vie quotidienne pour eux-mêmes, et en pensant peut-être que ça pourra servir aussi pour un roman ou pour une œuvre d'écriture, quelle qu'elle soit. Donc ils ont le matériel, peut-être que c'est tentant de faire c'est une manière de faire le bilan de sa vie, peut-être. En général, on fait l'autobiographie quand même assez tard.
Il faut attendre d'avoir vécu un petit peu quelque chose.
Alors si on a la chance d'avoir vécu longtemps...
Il n'y a que Lady Di qui raconte sa vie alors qu'elle est très jeune.
Oui. Donc, il y a ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un... Enfin, tout le monde ne ferait pas le pas de s'expliquer publiquement, c'est vrai, les choix de sa vie, enfin tout ce qui a pu arriver, les amours, toutes ces choses-là. Donc faut quand même avoir peut-être, oui, besoin de montrer, je sais pas si c'est une manière de rechercher la reconnaissance des autres ou pas.
Oui, je crois que pour Corinne Aby, il y a aussi eu, dans ce sens-là on rejoint d'ailleurs certains moments précis de notre émission, un besoin de témoigner de qu'est-ce que c'est pour une femme de d'écrire. Parce que c'est vraiment une femme écrivaine au sens complet du terme. C'était sa passion dès qu'elle était déjà toute petite. Elle a fait d'ailleurs un serment. Jamais je ne passerai un jour sans écrire. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'Evelyne défendait aussi au niveau des journaux intimes. Et c'est vrai qu'en même temps, c'était quelqu'un qui n'avait pas une conscience féministe au sens actuel du terme. Elle a vécu une vie de femme avec beaucoup de difficultés, donc sur le plan déjà de son corps. Elle a eu des problèmes physiques, elle a dû subir un avortement dans de mauvaises conditions. Elle avait donc des soucis ménagers assez importants. Et dans ce sens-là, je crois que même sans le vouloir profondément, pour les femmes, elle sentait un besoin de témoigner d'une vie d'écrivaine aujourd'hui, enfin au XXe siècle.
Постой, кричит девица, постой.